gueule, les mouettes. Ça suffit maintenant. Hein? On arrête. Pour écouter
Onde d'été, l'émission estivale sur Radio Saint-Af.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Onde d'été, le magazine culturel de vos vacances. Encore un programme très fourni aujourd'hui, les ateliers pour enfants à la Maison de la Mémoire, Aurélie les a testés pour vous. Quant à mes oreilles et mon fidèle Nagra, ils n'ont pas arrêté une seconde de travailler. J'ai écumé les festivals de la région, la Ruée vers l'art, le festival de Sylvanès et le Cap Festival. Je vous propose une sélection des meilleurs spectacles. Il sera question de marionnettes, d'expériences sonores uniques dans un dôme ou encore d'un accordéon dans une abbaye. Cherchez l'erreur. Bref. Que du bonheur à vivre ou à revivre pour vos oreilles, comme le spectacle de Wally qu'il jouera vendredi à Saint-Afrique. On en écoutera un extrait en fin d'émission. Mais tout de suite, les bons plans d'Aurélie pour observer les oiseaux.
Depuis lundi, la Ligue de protection des oiseaux d'Aveyron et celle du Tarn tiennent une permanence à Roquesaisière pour assurer un suivi de migration. Samuel Talouette, chargé d'études à la LPO Aveyron, présente le projet.
Alors depuis quelques années, on assure un suivi de la migration sur les crêtes de Roquesaisière. Donc on est là tous les jours, donc du 20 août au 10 septembre, pour compter les oiseaux migrateurs. Et étant sur place, ça nous permet également de sensibiliser les gens qui viennent voir le panorama, leur expliquer un petit peu les oiseaux, pourquoi ils migrent, etc.
Pourquoi mettre en place cette permanence à Roquesaisière précisément?
C'est un site qui est intéressant puisqu'il y a pas mal d'oiseaux qui passent sur le site. Ça fait une zone de concentration des oiseaux en raison du relief. Et les oiseaux qui migrent vont préférentiellement passer au-dessus de Roquesaisière plutôt que de passer dans les monts de la Cône qui sont un peu plus élevés. Donc ils préfèrent passer l'endroit le plus bas. Et donc ça fait une sorte de couloir de migration qu'on a repéré depuis les années 90. Et que l'on suit particulièrement depuis 2006.
Et si on vient sur le site, qu'est-ce qu'on peut observer?
Alors, nous, on fait le suivi essentiellement des rapaces. Donc là, chaque année, sur les trois semaines, on compte entre 2500 et 3000 rapaces en moyenne. Et chez ces rapaces, l'espèce la plus observée, c'est un oiseau qui ressemble beaucoup à la buse variable et qui s'appelle la bonderie apivore. C'est un petit rapace qui mange essentiellement des insectes comme les abeilles, les guêpes, enfin des hyménoptères en général, quoi.
Et quel est l'intérêt pour le grand public de venir vous voir?
Tout simplement de découvrir le phénomène de la migration, qui est quelque chose que les gens ne connaissent pas vraiment. On parle souvent des oiseaux migrateurs, mais on ne sait pas comment ils migrent, pourquoi, etc. Donc on est là pour leur expliquer.
Pour découvrir le phénomène de migration, la LPO conseille de se rendre sur le site de Roquesaisière en fin de matinée ou en début d'après-midi, heure à laquelle les oiseaux se déplacent. Les résultats du suivi permettront de connaître l'évolution des populations migratrices. Samuel Talouette.
Cette année, donc, le Parc naturel des Grands Causses organise une journée de la migration à Roquesaisière, donc sur le site du suivi, le samedi 7 septembre. Et donc ce jour-là, il y aura, donc le matin, ça sera des conférences, notamment par un biologiste qui fera un peu un point sur la migration des oiseaux. Et nous-mêmes, donc nos collègues de la LPO Tarn et moi, allons présenter le bilan de 8 années de suivi de la migration sur le site.
Le bilan des 8 années de suivi sera exposé le 7 septembre à Roquesaisière lors de la journée consacrée à la migration. Pour plus d'informations sur la LPO et ses missions, visitez le www.aveyron.lpo.fr. Le suivi de migration à Roquesaisière, c'est jusqu'au 10 septembre. Les chargés de mission de la LPO vous attendent sur place pour observer les rapaces.
On reste dans les animaux avec Aurélie, décidément, elle aime ça.
Les animaux extraordinaires, c'est le nom de l'atelier pour enfants proposé tous les mardis à la Maison de la Mémoire de Saint-Afrique. Rencontre avec Alice, habituée des ateliers.
Je suis chez mes grands-parents en vacances.
Alors aujourd'hui, tu es à la Maison de la Mémoire pour un atelier et je crois que tu es une habituée des lieux.
Un petit peu.
Et donc tu as déjà participé aux ateliers, comment ça se passe?
En fait, souvent tu as une feuille et tu as le choix et tu prends un animal fantastique et après tu l'imagines mais en restant sur le thème.
Et la dernière fois, c'était sur quel thème?
C'était, euh, on choisissait n'importe quelle bête dans le bestiaire.
Et qu'est-ce que tu avais choisi ?
Le calandrin.
Et ça ressemble à quoi, un calandrin ?
Ça ressemble à un homme, mais à moitié monstre.
Pourquoi tu aimes venir à ces ateliers ?
Parce que c'est très bien et que ça m'occupe presque toute l'après-midi.
Florian Boulet, responsable de la Maison de la Mémoire, nous en dit un petit peu plus sur le lieu et ses ateliers.
La Maison de la Mémoire, c'est un bâtiment qui regroupe à la fois les archives municipales, une bibliothèque régionale, un écomusée et un espace d'exposition temporaire.
Donc cet été, tous les mardis, vous organisez des ateliers pour enfants qui ont un rapport avec votre exposition temporaire, je crois. Est-ce que vous pouvez m'en dire quelques mots ?
Donc en fait, les ateliers consistent à faire à ce que les enfants fassent le même travail que le peintre et le poète ont fait autour de l'expo, c'est-à-dire prendre un texte, le comprendre, et de façon à pouvoir l'illustrer à leur façon.
Et pourquoi bestiaire ?
Parce que l'exposition, elle est partie d'un bestiaire du XIIe siècle, qui a été traduit en français, et qui n'était pas illustré, et qu'un peintre, c'est toi, contemporain, a illustré. Et du coup, l'atelier pour les enfants, il tourne autour du thème des animaux, qu'on décline sous 3-4 formes différentes à chaque fois, pour avoir un thème différent chaque semaine.
Et qu'est-ce qu'un bestiaire ?
Un bestiaire, c'est un ensemble de textes, un livre, on va dire, qui traite uniquement des animaux. Et là, au XIIe siècle, enfin au Moyen-Âge, en l'occurrence, c'était presque un livre scientifique, malgré ce qu'on pourrait croire quand on lit les textes d'un peu plus près.
Donc là, le mardi, vous organisez cet atelier. Il s'adresse aux enfants de quel âge ?
Aux enfants de 8 à 12 ans. On n'a pas voulu prendre plus jeunes parce qu'il y a quand même une partie où... En fait, il faut qu'ils s'inspirent des textes, donc il faut qu'ils maîtrisent bien la lecture et puis surtout comprendre... ceux qui lisent, et après, voilà, une fois que ça s'est fait, ils peuvent se défouler en peinture, en collage, en dessin.
Et ça dure combien de temps ? 2 heures ?
Ça dure l'après-midi de 14h à 17h.
Et le tarif ?
C'est gratuit.
Et aujourd'hui, vous avez prévu quoi, là, sur l'atelier ?
Aujourd'hui, on va leur faire un thème qu'ils n'ont pas fait encore, à partir de différents livres qui sont des recueils de contes de tradition orale, qui ont été récoltés, on va dire, dans les années 70-80 par divers ethnologues dans tout le midi de la France et qui mettent en scène, en fait, que des animaux. Ça ressemble un peu aux fables de La Fontaine, si on veut.
Et la semaine prochaine, vous avez déjà choisi le thème ?
La semaine prochaine, on fera certainement les animaux ou les bêtes fantastiques de la tradition du sud de la France, comme la bête du Gévaudan, le drac, voilà, des personnages comme ça.
Et en ce qui concerne l'exposition temporaire, on peut la voir quand, comment ?
Alors l'exposition temporaire, elle est ouverte à nos horaires d'ouverture, donc toute la semaine du lundi au vendredi, de 9h à midi et de 13h30 à 17h30 jusqu'au 27 septembre. Et on ouvrira pour le week-end des journées du patrimoine toutes les après-midi, de 14 à 18h.
Et je crois que vous ne m'avez pas donné le nom de l'artiste.
Alors l'écrivain qui a traduit en occitan moderne et en français, c'est Yves Roquette. Et le peintre, c'est toi, il s'appelait Pierre-François.
Un aperçu de l'exposition Bestiaire, visible à la Maison de la Mémoire.
Moi, il y en a un que je connais par cœur, c'est le calandrin.
Alors, va lui expliquer le calandrin, mais va te mettre devant, comme ça tu lui expliques avec la table.
En fait, le calandrin, tu le mets sur une personne à manger qui est très malade. Et s'il tourne la queue, ça veut dire qu'il va mourir, mais s'il le regarde droit dans les yeux, ça veut dire qu'il va guérir.
Voilà, tu vois, là, le monsieur, il l'a dessiné comme il l'imaginait, avec une tête un peu pas... une tête de mort.
Et voilà. Avec le bras qui descend directement de la tête.
Voilà, donc voilà, c'est des imaginations. Après, si on prend le crocodile ici, tu vois l'originalité de ce tableau. Déjà, il est très coloré par rapport à celui-là. Et en plus, tu as vu avec quoi il a été décoré ?
Des papiers de Noël.
Voilà, en fait le peintre Pierre-François, il aime bien faire à la fois de la peinture mais aussi des collages, des montages, et tu verras sur plusieurs tableaux, il a mis pour améliorer son dessin, il a fait des collages, là il a mis des papillotes qu'il a même peint par-dessus au cas où ça suffirait pas, et là il nous a fait un crocodile à trois têtes.
Pour imaginer son calandrin, son hydre, sa licorne ou tout autre animal imaginaire, il suffit de participer aux ateliers pour enfants de la Maison de la Mémoire de Sainte-Afrique. Sous réservation, bien sûr. Les animaux extraordinaires, c'est tous les mardis après-midi, de 14h à 17h. L'animation est gratuite. Quant à l'exposition En Lien, Bestiary, elle est visible, je vous le rappelle, jusqu'au 27 septembre, aux heures d'ouverture du lieu.
C'est trop tard pour y aller, mais moi j'y étais.
C'est parti pour la trilogie des festivals à Véronée. Dimanche 11 août, Aurillal, j'étais confortablement installée sous un arbre, à 40 degrés à l'ombre, quand tout à coup, il pleut. Ou plutôt, non, c'était un spectacle qui commençait. Un spectacle de marionnettes, pour grands et petits, avec des personnages aux costumes étonnants, comme une cigogne, une grand-mère ou la mort elle-même. Rencontre avec Cha, l'unique interprète de tous ses rôles, également conceptrice de ses drôles de corps et de têtes. Et je n'étais pas la seule à faire la curieuse après ce spectacle programmé dans le cadre du festival La Ruée vers l'art.
J'ai un papier, plâtre, gaz aussi, de la gaz.
De la gaz.
Et puis toute forme de peinture et de vernis à bois et tout ça. Et des poils de balai.
Ah,
oui, je fabrique tout, ouais. Ouais, je fabrique tout. Hop. C'est des poils de balai.
Poils de balai.
Mon ami qui est régisseur son, il est coiffeur en fait. Et du coup, c'est les poils de son balai. Voilà. Ensuite, par contre, la grand-mère, elle est faite en latex. Donc, c'est une sculpture en pâte à modeler.
Et qui les fait? C'est vous?
C'est moi, ouais.
Ah, c'est fantastique. Hein.
Ouais, je fais tout. Voilà, la grand-mère, c'est un moule. D'abord, je fais une sculpture en plastiline. C'est une pâte à modeler très, très dure. Et ensuite, je coule du plâtre sur cette plastiline. Mm-hmm. Ensuite, quand le plâtre est sec, j'enlève ma plastiline et je coule du latex.
De latex.
Voilà.
Et vous êtes d'où?
On est de Toulouse.
Ah, Toulouse, la ville rose. Et vous vous appelez comment?
On est les clochards célestes. Voilà. Moi, c'est Cha. Cha et Rémi, au son. Voilà, les clochards célestes. On a emprunté le titre à Jack Kerouac, au roman Les clochards célestes, parce que moi, il me parlait beaucoup, ce roman sur la liberté.
Et depuis combien de temps vous existez?
Cette compagnie, elle existe depuis 2 ans, depuis la création de ce spectacle. Voilà. Et ensuite, moi, je travaille depuis 6 ans, avec ou 7 ans maintenant, avec d'autres compagnies de marionnettes aussi, sur d'autres spectacles. Voilà, la compagnie Créature, notamment à Toulouse, qui est une grosse compagnie. Voilà. Et j'ai eu envie de voler de mes propres ailes et d'avoir des sujets qui m'appartenaient. Et donc, j'ai créé ma compagnie. Voilà.
Et justement, cette référence à Lhasa et Abuelita, Abuela, le côté espagnol, en fait... Ouais. Ça vient d'où?
Ça vient de ma famille qui est andalouse, ma famille du côté de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle était andalouse, et donc c'est un hommage à ma grand-mère. Alors bon, vu qu'elle nous parlait espagnol quand on était petit, j'avais envie de le faire en espagnol, parce que ça donne aussi une couleur que j'aime. Et puis le Mexique aussi, il y a Frida Kahlo, il y a la mort, il y a la calavera, c'est donc l'image de la mort au Mexique. Et en fait, ce spectacle, on l'a créé en revenant du Mexique. Et je me suis dit, il faut absolument qu'il y ait une mort et qu'il y ait la tête de mort, quoi, Et c'est vraiment la mort mexicaine, la mort joyeuse, la mort qui fait la fête.
Comment s'appelle ce spectacle?
Soledad.
Voilà. Qui veut dire
solitude. Voilà, qui veut dire solitude. Qui est un prénom en espagnol aussi. Soledad, c'est un beau prénom en espagnol. Vachement chargé, mais vachement beau.
Qu'on ne connaît pas, quoi. Les mots.
Ça veut dire, alors, que buena muerte? Ça veut dire quelle belle mort en espagnol.
Et ça,
c'est le sandwich.
Ça rallonge.
C'est le sandwich accordéon. Tu vois, tu peux tirer dessus, hop, il s'allonge. C'est génial, ça.
Oui.
Est-ce que vous pouvez, en juste en deux, trois mots, nous raconter juste l'histoire ou le début pour la radio ?
Bah, c'est l'histoire d'une femme qui raconte, qui fait du dernier jour de sa grand-mère le plus beau jour, qui fait tout pour la retenir son dernier souffle et qui raconte du coup des petits moments de sa vie et puis aussi qui part dans son imaginaire par rapport à sa vie, à ce qu'elle a vécu, à ses amours, voilà.
Et alors vous, est-ce que vous êtes vraiment enceinte ?
Non, je l'étais l'année dernière de mon bébé. Voilà, j'ai joué jusqu'à comme ça. Mais là, c'est un faux, du coup. On a gardé l'idée, évidemment, du cycle de la vie, donc de la mort et puis de la naissance.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Et bonne continuation.
Merci, merci de même.
C'était Radio Sainte-Afrique, en fait. Hein.
Ah oui, c'est une bonne radio, on m'a dit.
Excellente même, tout comme le spectacle Soledad, de la compagnie Les Clochards Célestes, Chapressec à l'interprétation et à la conception des marionnettes et des décors, Rémi Fournier à la régie son et Céline Cohen à la mise en scène. Ils jouaient dans le cadre du festival La Ruée vers l'art, organisé par Polisson. C'était les 10 et 11 août derniers.
El hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata.
La Célestine de Lassa, artiste très présente dans la magnifique bande-son de Soledad, le spectacle de marionnettes des Clochards Célestes.
Vous écoutez Ondes d'été sur Radio Sainte-Afrique.
Si vous avez manqué le Cap Festival, pas de problème, j'ai vu le groupe le plus intéressant du festival. Non, ce n'est pas San Severino, mais ça commence par la même lettre.
Je me présente déjà, je suis Yann, le batteur du groupe, le groupe Sakia, présent au Cap Festival cette année avec le projet Ventilo. Donc voilà, on est un groupe composé de deux guitares, basse, batterie et plus une chanteuse qui est arrivée il y a un an et demi dans le groupe, et ainsi que nos techniciens son et lumière. Voilà.
Et alors le projet Ventilo, qu'est-ce que
Le projet Ventilo, c'est jouer sous un dôme blanc avec autour des gens. Le public au milieu et le son qui tourne et du coup plonger les gens dans quelque chose d'assez différent par rapport à une scène normale. C'était clairement la volonté du projet à la base, quoi, c'était de sortir du rapport frontal de la scène pour arriver à avoir les gens au milieu de nous pris. Voilà, pour que tout le monde se sente concerné, soit perdu aussi. On fait une musique un peu particulière, qui sort un peu des sentiers battus. Et du coup, je trouve que le mettre dans un autre endroit que la scène normale, ça correspond plutôt bien à la musique qu'on fait, quoi.
Et depuis quand ce projet existe et qui en est l'auteur, enfin, qui a eu l'idée en premier? Comment ça s'est fait?
Mais le projet, on a commencé à le réfléchir il y a à peu près 3 ans. Autour d'un verre avec Pierre, l'ingénieur du son. On a commencé à réfléchir à ça. Après, techniquement, ça nous paraissait très compliqué, matériellement aussi, ça nécessite pas mal de choses. Donc on a un peu laissé tomber, on a fait une ébauche qui n'a pas marché au Festival Musique à Pile parce que le premier dôme qu'on avait n'était pas couvert et il a plu. Donc ça a été annulé, donc on a laissé tomber un petit peu, on s'est concentré sur nos albums, nos 2 albums. Et du coup, l'idée est revenue après, avec le contact Les Oeils, c'est-à-dire c'est une asso qui fait de la déco des festivals, enfin, ils font plein de choses, c'est des ferrailleurs. Et ils ont notamment ce dôme. Et du coup, comme on avait de nouveau le moyen d'avoir un dôme, on a relancé le projet et on l'a fait en résidence à Biarritz en octobre cette année. Enfin, non, 2012 d'ailleurs, on est passé en 2013.
Et pourquoi ce dôme? Est-ce que acoustiquement ça fait quelque chose ou...
Ouais, le dôme acoustiquement ça fait chier, clairement. Donc pour nous c'est pas tellement au niveau du son, c'est plus au niveau de l'esthétique. Et puis voilà, on ferme les gens et pour vraiment qu'ils aient plus de repères, quoi. C'est-à-dire que quand ils rentrent dans le dôme, ils rentrent par une entrée et après le but c'est qu'ils sachent plus où est cette entrée.
C'est un peu comme la hutte de sudation en plus parce qu'il y a beaucoup de fumée.
Oui, non, mais ça fait partie, quoi. On veut déstabiliser les gens au maximum, quoi. Que ce soit la musique, les lumières assez faibles, beaucoup de noir, enfin.
Et quels sont vos projets?
Essayer de trouver des concerts, ce qui est vraiment difficile en ce moment, et d'autant plus avec des musiques qui sortent des sentiers battus. Comme on est vraiment un groupe en autoproduction, on se fait tout nous-mêmes, on se démerde nous-mêmes. On aimerait bien faire un 3e album aussi, en projet, et continuer à penser le projet du dôme pour le faire évoluer vers d'autres choses. Comme c'est la première fois qu'on le joue sur un festival ici, c'est la première fois qu'il est monté, donc on a découvert plein de nouvelles choses, machin, donc il faut... On sait qu'on a encore plein de choses à peaufiner, on a beaucoup de travail à faire, notamment sur l'aspect scénographique. Donc ça, c'est les projets d'avenir, c'est ça pour l'instant.
Peut-être incorporer de la vidéo ou des choses comme ça, non?
Ah, la vidéo, on entend souvent parler de ça. Pardon. On entend souvent parler de ça, mais alors, on a une volonté assez claire, en fait, de ne pas mettre de vidéo. Parce qu'on estime qu'on fait une musique assez illustrative. Pour nous, mettre de la vidéo, en fait, c'est casser l'illustration en donnant un imaginaire déjà un morceau. Alors que nous, on veut que les gens ils aillent où ils veulent en écoutant la musique. Et ça, déjà sur des configs de scène normales, ça marche plutôt bien. On a des concerts assez surprenants et le public réagissent vachement bien. Ou des fois, ils vont s'asseoir, ils vont juste écouter la musique. Du coup, on oublie un peu le côté danse, mais le côté vraiment... les oreilles grandes ouvertes et le cerveau qui décolle, quoi. Et ou d'autres configs un peu plus rock, où là c'est... mais comme là ce soir, du coup, un morceau un peu plus rock, ça danse, ça bouge un petit peu. Donc la vidéo, par rapport à tout ça, c'est... pour nous, c'est casser un peu l'imaginaire qu'on veut vendre, quoi. Enfin, qu'on veut véhiculer.
Et pour monter ce dôme, combien de personnes, en fait? C'est une équipe de combien au total? Parce qu'il n'y a pas que les musiciens et les techniciens.
Mais en fait, nous sommes les musiciens et les techniciens, donc ça fait 7, plus les deux personnes des œils. Donc on est 9 pour monter le dôme, et puis après toute la technique dedans, et le son, la lumière, le backline, enfin, parce qu'on s'amène tout, en fait. Donc on ne demande rien aux organisateurs.
Vous pouvez juste nous rappeler la dimension du dôme, ouais. Plus ou moins?
Le dôme fait 13 mètres de diamètre et par 6,50 mètres de haut. Donc on y rentre à peu près 220 personnes pour que les gens puissent circuler. Il y a quelqu'un à l'entrée qui compte les personnes à peu près et pour que les gens puissent circuler, parce que c'est aussi un des objectifs du Dôme, les gens se baladent dedans. Des fois, c'est assez marrant parce qu'il y a des gens qui viennent faire coucou à la batterie ou à d'autres instruments, du coup, comme ils sont libres de bouger et qui sont au milieu. Voilà, c'est vraiment un rapport différent par rapport à une scène normale.
Vous avez un site internet?
Ouais. www.sakyamusique.net, plus le Facebook, voilà. Il y a une petite vidéo du Dôme d'ailleurs dessus, enfin du projet Ventilo.
Voilà. Super, merci, alors bon vent.
Merci. Yann, batteur du groupe Sakya, présent au Cap Festival le week-end dernier, une première en Aveyron pour le projet Ventilo. Pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de rentrer dans le Dôme, voici un extrait sonore de Sakya, en stéréo s'il vous plaît. Merci à Hugues pour la prise de son.
Sous les balles, les appareils, les gens se terrent, traversent les couloirs, sautent entre les plaques, salles, la détente sera dure jusqu'à la sixième. Le balancement des synapses, le balancement des oscillants doucement sous le nez aux aveugles, sauras-tu soumettre tes terreurs? Trois fois seulement tu supportes les hommes sans vie et se sentir, trois fois seulement tu survis. Ce jusqu'à la sixième, saute encore, tu t'essouffles, seul, mais serein, ou pas, suis le chant des sirènes, suis le chant de la sirène. La neige carbone boucle 14, rencontre le silence concret, conversation entre deux eaux, entre visages, entre deux yeux. La course vers la sécurité. Serrez les dents, ce qui se passe dans l'organisme. Jusqu'à la main secouée, pauvres armes, pauvres êtres unicellulaires en suspension. Juxtaposés en communication, génératrice de stress. Bitume, pété, bataille, bitume, 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 pied, tumeur citadine, humeur en tension. Frappé contre les poubelles, ne mène à rien d'autre que fracture. Justice de cassation, surtout sans castration, messieurs. La descente sera sûre, la détente sera dure. La descente sera sûre. Thank you.
Sakia, le projet Ventilo, extrait de leur concert au Cap Festival 2013. Sakia, ça s'écrit S-A-K-Y-A. Pour nous remettre de ces sons électroniques, rien de tel que le calme d'une ancienne abbaye cistercienne à deux pas d'ici. Les quatre saisons de Vivaldi, vous connaissez peut-être, mais les huit saisons de Vivaldi et Piazzolla, arrangées par Richard Galliano, peut-être moins. Rencontre avec l'accordéoniste, qui a même séduit Claude Nougaro. Il était en concert exceptionnel à l'abbaye de Sylvanès, dimanche dernier. Bonsoir Richard Galliano, est-ce que vous pouvez vous présenter et aussi nous présenter bien sûr les musiciens qui vous accompagnent ce soir, qui vous ont accompagné au cours de ce concert à l'abbaye de Sylvanès?
Oui, alors me présenter, vous l'avez fait, je m'appelle Richard Galliano, je suis musicien, accordéoniste, compositeur aussi. Et donc ce soir j'ai joué avec un quintet à cordes dirigé par Jean-Marc Philippe Svarjabedian. Je ne vais pas dire le nom de chaque musicien, mais il y a donc deux violons, donc un violon solo, alto, violoncelle et contrebasse, et moi l'accordéon. Et ce soir, on a joué les doubles saisons, c'est-à-dire quatre saisons de Vivaldi et quatre saisons de Piazzolla qui avait écrit en style de tango, quoi.
Alors justement, parlez-nous de ces huit saisons. Déjà, pourquoi huit saisons?
Oui, alors il y a d'autres musiciens qui ont déjà eu l'idée d'assembler ces huit saisons, parce que simplement, je ne sais pas s'il y a peut-être d'autres compositeurs qui ont écrit, il me semble avoir vu ça, sur les saisons, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de, intemporel, et puis à la fois perpétuel, quoi, les saisons, ça ne s'arrête pas. Mais alors les huit saisons, je suis tombé sur un article qui parlait de la vie en Laponie. Et en Laponie, les gens pensent huit saisons, c'est-à-dire ils pensent le début de l'hiver, la fin de l'hiver, début du printemps, fin du printemps, début de l'été, fin de l'été. Et chaque fois, ils le vivent d'une manière différente. On peut penser aux différents âges de la vie, c'est-à-dire l'enfance, l'adolescence, la maturité, après l'âge mûr, et puis la vieillesse. Et justement, que ce soit l'hiver de Piazzolla comme l'hiver de Vivaldi, c'est décrit d'une manière très gaie, très optimiste. Moi, je vois en vieillissant que la vieillesse, c'est une manière de voir les choses différentes, comme les Lapons voient les quatre saisons et comme Vivaldi voyait les quatre saisons aussi à Venise. Musicalement, le fait de mettre l'accordéon à la place du violon solo, c'est aussi un éclairage différent qui fait que je pense que les choses, sont en évidence d'une autre manière, quoi, hein, parce que c'est vrai que l'accordéon, ça parle à un large public, c'est un peu dans la mémoire collective, hein, cet instrument, quoi, à la fois très populaire, et cette musique aussi, elle est universelle, je crois qu'elle touche tout le monde, hein.
A priori, justement, l'accordéon n'a rien à faire dans la musique classique. Pourquoi avoir tenté ce rapprochement?
Oui, en fait, ça fait pratiquement un siècle qu'on joue de la musique classique à l'accordéon. Classique, baroque, contemporaine, même des compositeurs comme Henri Dutilleux ont utilisé l'accordéon. L'accordéon, c'est un instrument très nouveau, c'est-à-dire il a été construit, et c'était un jouet au départ, dans les années 1830, par là. Et il est arrivé à maturité, on peut dire, autour des années 1950, 1945. Voilà, les instruments. Mon instrument, par exemple, il date de 1960. Et à la fois, c'est un instrument très, très, très ancien. Parce que l'ancêtre de l'accordéon, c'est le cheng chinois, l'orgue à bouche. Donc ça remonte à 3000 ans avant Jésus-Christ, je crois. Et l'accordéon, c'est la famille de l'harmonium. Alors, on peut dire que c'est un harmonium, mais plus expressif que l'harmonium, plus souple aussi, plus dynamique. Avec mon soufflet, je peux non seulement imiter le vent, mais aussi jouer sur les accents, comme les violonistes jouent avec leur archet, quoi. moi je pense que de plus en plus l'accordéon aura sa place, non seulement dans le classique, mais aussi dans le jazz. J'entends sans arrêt des accordéonistes qui jouent divinement bien. Et j'ai l'impression que les musiciens, les compositeurs se tournent vers l'accordéon parce qu'il y a tout à faire avec l'accordéon, quoi, voyez. Alors que, bon, c'est sûr qu'avec le violon, avec le... Je ne dis pas qu'on a fait le tour, mais beaucoup de compositeurs se sont approchés du violon, du piano, du violoncelle. De l'accordéon, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et à la fois, il y a eu des accordéonistes qui n'étaient pas classiques, mais je pense à des gens comme Gus Wieser, par exemple, qui était vraiment un génie de l'accordéon, un très grand artiste. Il a laissé des valses musettes qui sont des chefs-d'œuvre, et qu'on peut comparer à n'importe quelle musique classique ou contemporaine. C'est vraiment d'une modernité et d'une inventivité, d'une invention plutôt, magnifique, quoi.
Est-ce que vous êtes accepté par le milieu de la musique classique ?
Ben oui, vous avez vu ce soir, j'ai beaucoup d'amis. Parce qu'on s'est d'abord rencontrés sur le terrain de la musique de Piazzolla. C'est-à-dire les musiciens classiques étaient attirés par la musique de Piazzolla. Et de plus en plus, je suis invité par des orchestres, que ce soit en Allemagne, en Italie, en France, au Brésil bientôt aussi, pour jouer à la fois la musique de Piazzolla, ma musique aussi, que j'ai écrite toujours pour ce genre de formation. Parce que l'accordéon se marie très bien avec les cordes, les instruments à cordes, la musique de Vivaldi, de Bach. Ce qui me paraît évident aujourd'hui, c'est qu'il faut que l'accordéon soit baigné dans une ambiance classique ou une ambiance jazz, pour sortir de son rôle habituel. Mais je ne dis pas qu'il faut repousser les valses musettes, quitter, ça c'est l'identité de l'accordéon, comme les musiques bulgares ou brésiliennes. Mais c'est bien d'aller voir ailleurs aussi, hein, sans se perdre, bien sûr, hein, en sachant que moi, je crois que finalement, le plus beau à l'accordéon, pour moi, c'est la valse musette, et c'est notre folklore aussi.
Dernière petite question, quels sont vos projets? Si on
Mes
peut
projets,
savoir.
Alors demain, retourner sur Nice, prendre un avion après-demain pour l'Italie. Je fais un concert en solo en Italie, près de Perugia. Après, j'ai encore quelques concerts. Puis j'ai une tournée au Brésil aussi. Et après, il y aura une tournée en Allemagne aussi. Beaucoup de choses, beaucoup de voyages, beaucoup de... Voilà mes
Très
projets.
Galliano, l'infatigable voyageur, j'ai eu la chance de le rencontrer après son concert dimanche dernier à l'abbaye de Sylvanès. Il interprétait en sextette les 8 saisons de Vivaldi et de Piazzolla. Astor Piazzolla, célèbre bandoneoniste et compositeur argentin, il était l'ami et le mentor de Richard Galliano. Il lui a rendu hommage une fois de plus sur scène. Je vous laisse écouter Richard Galliano à l'accordéon. Thank you. Richard Galliano, enregistré lors de son concert à Sylvanès dimanche dernier.
Vous écoutez Ondes d'été sur Radio Saint-Afrique.
Dans mes précédents spectacles, c'est une espèce de best-of que je vous fais ce soir, pendant des années, j'ai mis en musique de vrais courriers de lecteurs de magazines télévisuels. Téléstar, en l'occurrence. Hein. Ce sont de vrais courriers de lecteurs de magazines télévisuels. Je n'ai pas changé une seule virgule, c'était pas la peine. Et poum, poum, tchikiti poum, poum, tchikiti poum, poum, tchikiti poum, poum. L'éducation nationale souffre du manque d'enseignants pour divers motifs. Et poum, poum, tchip. Grève, absentéisme, maladie et stress. Et présence à l'émission. Question pour un champion. De vrais courriers, je vous rappelle. Je n'ai pas changé une seule virgule. Ah, can't you want to think the rest of the book is all. Pourquoi choisir de riches et célèbres acteurs pour faire de la publicité des individus sans emploi et qui plus est bien maquillés feraient à mon avis pareil, mais faut qu'ils soient bien maquillés. Alors je vous dis un truc, c'est que moi, pendant des années, j'ai fait ce genre de choses. Je mettais des courriers de lecteurs en musique, on m'en envoyait. J'avais créé un club de lecteurs de courriers de lecteurs chez moi, en Aveyron, tous les dimanches. Oh, allez, tu peux mettre celui-là pour le week-end prochain et tout. J'étais devenu complètement addict à ce genre de pratique et j'ai arrêté, comme on arrête de fumer. Et puis, il y a quelques années, j'ai remis comme ça le nez chez ma mère, dans Téléstar. Hein, moi, j'ai pas la télé, donc dans Téléstar. Et je suis retombé sur un courrier par lequel tout a recommencé, je crois. Je voudrais vous le faire ce soir, ce courrier, comme une lecture de théâtre. Comme tous ces acteurs qui font beaucoup de lectures de théâtre en ce moment. Et... parce qu'ils ne peuvent plus apprendre les textes. Parce que... mais il y en a qui le font bien. Il n'y a pas que des escrocs hein, dans tout ça. Il y en a qui le font très bien. Voilà. Tu nous fais une ambiance, Denis. Théâtre, le courrier par lequel tout a recommencé. Je voudrais savoir si l'émission Thalassa passe le vendredi parce que c'est le jour du poisson. Vous comprenez pourquoi j'ai replongé là quand même.
On est passé sans transition de Galliano à Wally. C'était un extrait de son spectacle Beston. Pour ceux qui ne le connaissent pas, n'hésitez pas à le rencontrer vendredi soir à Saint-Afrique. C'est un humoriste aveyronnais et il ne vous laissera pas insensible, j'en suis sûre. J'ai moi-même vu son spectacle à Pézenas et je me suis fendue la gueule. Rendez-vous vendredi soir à 21h, place de la mairie à Saint-Af, et c'est gratuit.
Where is Stanley?
Oh, Stanley in the rubric. Oh, rubric of rock.
Quoi faire ce week-end? Le Salon des Amis des Arts et se déroule du 13 au 22 août à la salle des fêtes de Saint-Afrique. Toujours à Saint-Afrique, Wally donne son spectacle vendredi soir, place de la mairie. Il faut absolument y aller. Sur le Larzac, Claire de Lutte continue jusqu'au 22 août. On a des places à vous faire gagner pour le concert de clôture du Festival de musique sacrée et musique du monde de Sylvanès. Et oui, il se termine dimanche 25 août à 17h. Ce seront les voix du Pays Basque qui rencontrent celles de Russie. Donc n'hésitez pas à nous téléphoner au 05 65 49 29 94. Je répète, 05 65 49 29 94. Vous pouvez gagner des places pour Sylvanès, le concert de dimanche à 17h. Le concert sera suivi d'un repas champêtre à 19h dans la prairie, ouvert à tous, et à 21h, bal traditionnel occitan avec le groupe Los Dendacom. C'est à Sylvanès tout ça. Merci à Aurélie, Hugues, Jean, Philippe, Antoine à la technique. Ne manquez pas la dernière onde de l'été, mercredi prochain. Enfin, surtout Jean à la technique. Hein. En direct à 10h10, une spéciale Nantival mercredi prochain. Cette émission est rediffusée le jeudi à 20h et le vendredi à 17h. Ou en podcast, quand vous voulez, où vous voulez, sur notre site internet radiosaintafrique.com. Bel été à vous!